R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bien, bonjour. Je vous présente mes excuses pour avoir été absente hier et avant-hier. Comme on dit en français, j'en ai plein le dos, donc j'ai mal au dos. Sans doute à cause de tout ce qui se passe. On a été invités, donc je remercie évidemment Elisabeth, Marco et pour leur invitation. Nous étions invités à étudier la manière dont le capitalisme tardif façonne les subjectivités et quelle résistance émerge. Et en fait, moi je pense aussi à la dimension exaspérée que prend certains débats en France, mais aussi ailleurs, une exaspération qui conduit à des positions de revanche, de vengeance, énormément conduite par des hommes, où s'exprime d'une certaine manière une masculinité autour d'une angoisse peut-être de la fin de l'homme, ou plutôt de la fin d'un homme, un homme occidental, blanc, en possession de toutes ses capacités, qui porte une Rolex à 50 ans, et donc de réfléchir aussi sur peut-être ce moment de post-virilité, pas strictement au sens donc de la post-humain de Foucault, mais d'explorer aussi d'autres théorie du monde. Donc en répondant à cette invitation, j'ai plutôt pensé à quelque chose sur laquelle je travaille depuis un moment. Donc le titre, c'est Une géographie noire de l'eau, qui est la traduction littérale de mon titre en anglais, A Black Geography of Water, et on voit tout de suite qu'en français, ça ne va pas. Parce qu'en français, parler de géographie noire a tout un autre sens. Ça ne revoit pas à la notion de présence noire, compte tenu de la difficulté de traduire en français cette histoire. Mais bon, donc c'est en fait une géographie de la présence noire des espaces liquides, on pourrait dire en français. Donc ce dont je veux parler ici, c'est d'un espace construit historiquement, légalement et culturellement par l'Occident, surtout l'Europe de l'Ouest, pour maîtriser l'Atlantique et d'autres océans, afin de faciliter la traite des captifs africains et les autres océans dans la poursuite de son projet hégémonique. Je veux parler aussi de l'absence dans les théories anticoloniales et postcoloniales de ces espaces liquides. Ce sont des théories terriennes, très souvent. Ce qu'implique aussi la privatisation et la militarisation des mers et des océans pour la dépossession des peuples, ceux qui vivent sur les côtes, et des personnes qui veulent traverser ces mers et ces océans. Et ce que pourrait être une théorie décoloniale des espaces liquides. Autrement dit, ces espaces liquides qui ont joué un rôle central dans l'histoire de l'esclavage, du colonialisme, de l'impérialisme et celui qu'ils jouent dans le capitalisme global aujourd'hui. Et vraiment, j'étais intéressée par le début de la présentation de Nassira parce que, en fait, la Suède a été un grand fournisseur des chaînes de fer pour la traite et l'esclavage. Et la colonie de Saint-Barthélemy a été un espace tournant, une plaque tournante pour l'esclavage, pour la distribution des esclaves dans les Caraïbes. Et le dernier point, la découverte d'un bateau négrier qui avait fait naufrage au large de la Suède avait poussé la Suède à financer d'ailleurs au départ le programme La Route des Esclaves de l'UNESCO. Donc il y a toute une histoire de la Suède avec évidemment le fait que de grands navigateurs. Donc cette question de l'eau. Bon, donc voilà. Donc la maîtrise de ces espaces, des espaces liquides, a été indispensable pour l'exploration et la conquête de terres et de peuples. Sans les bateaux, pas de possibilité de transporter les femmes et hommes réduits en esclavage, de transporter des armes, des soldats, de transporter le sucre, le tabac, le café ou le coton. Il était donc important de délimiter les terres et de créer un droit de la mer. Et l'importance des mers dans le commerce n'a pas faibli dans la circulation. 90% du commerce mondial se fait toujours par bateau. Et l'invention de containers a bouleversé d'ailleurs le commerce maritime. 70% du pétrole continue à être transporté par mer. Et 98% des communications digitales se fait grâce à des câbles sous-marins. Sans parler de l'importance des mers pour le climat et la vie humaine. La vitesse avec laquelle la privatisation et la militarisation des océans s'opèrent aujourd'hui trace une nouvelle cartographie du pouvoir militaire et politique, accentuant les rivalités. On peut aussi observer l'alliance entre science et armée pour mieux comprendre les mers et le monde maritime qui témoigne aussi de l'importance grandissante du besoin de maîtrise. Le rôle du monde maritime dans la traite transatlantique et des résistances a été vraiment exploré, hein. Mais aussi, on peut voir l'importance dans le développement de la cartographie maritime, de l'amélioration des connaissances, c'est le moment où on a aussi la carte des vents qui émerge, de la construction. Il faut aussi comprendre comment on va combattre le scorbut, enfin des tas de choses qui vont faciliter le commerce, parce que sinon, il y avait quand même d'énormes problèmes de mortalité. De la construction aussi d'un récit masculin, la mer devient masculine, que l'on voit à l'œuvre dans des musées maritimes à travers le monde, hein, parce que je visite beaucoup les musées, donc j'en ai vu autant Macao qu'Australie que l'Europe. Les musées maritimes sont des musées de la masculinité, bien que beaucoup de divinités de la mer et des eaux soient féminines. Parler des mers et de l'impérialisme, c'est parler aussi de la suprématie blanche, de la destruction des fleuves, des mers et des océans par la nécroéconomie actuelle. De l'industrie aussi, de la surveillance, hein, des drones et des satellites qui sont de plus en plus importants dans la surveillance des mers, notamment dans la surveillance de la Méditerranée aujourd'hui contre les migrants, et de la criminalisation du droit de la mer. Donc voilà. Ce dont je voudrais parler assez rapidement. Je voudrais commencer par évoquer évidemment la place des mers dans les mémoires diasporiques noires créées par la traversée du passage du milieu, à la fois espace de mort, on sait que les captifs se jetaient par-dessus bord et que les requins suivaient toujours les bâtons négriers, il y avait des compagnies de requins, et comme espace de survie, mais aussi comme espace de résistance. La mer comme cimetière, comme apportant la mort et la destruction, et la mer comme lieu de résistance. Et pour introduire un peu ce passage, je voudrais lire quelques lignes de la poétesse sud-africaine Kaleka Putuma, intitulée « Water ». Je vais les dire en anglais parce que je n'aurais pas pu les traduire de manière élégante et appropriée. Je ne sais pas traduire la poésie. Donc, vous m'excuserez. « Yet every time our skin goes under, it's as if the reeds remember that they were once chains. » And the water, restless, wishes it could spew all the slave and ships onto shore, all as they had boarded, sail, and sunk. Their tears are what turned the ocean salty. This is why our iris burn every time we go under. Ces vers de Putuma font écho au poème de Derek Walcott, qui lui a été traduit, hein, The Sea is a Story, et qui est dans une des strophes, où sont vos monuments, vos batailles, martyrs, où est votre mémoire tribale? Messieurs, dans ce gris coffre-fort, la mer les a enfermés, la mer et l'histoire. Si Putuma insiste sur la mer comme espace d'où vient le danger, Walcott lui insiste sur une réappropriation de la mer comme espace historique et culturel de la diaspora noire, comme une archive qui réactive à la surface et en profondeur des récits oubliés par l'histoire maritime hégémonique. On peut penser évidemment au travail de Paul Gilroy avec The Black Atlantic, mais aussi à Robbie Shilliam sur le Black Pacific. Bon, mais enfin... un autre vers du poème de Putuma exprime son indignation, sa colère devant la transformation de la mer en espace de danger et de mort, et je cite « The audacity to arrive by water and invade us ». Il est sans doute donc important de revenir à un moment historique qui signe le projet de maîtrise des mers, de cet endroit par lequel arrive la mort et l'invasion. Il se fonde sur une conception du monde autour de la division entre civilisation et barbarie qui va s'appliquer à l'Europe elle-même au XVIIIe siècle et évidemment au reste, comme on dit. L'historien Larry Wolff a étudié le processus par lequel la division conceptuelle de l'Europe créée à la Renaissance, entre le sud du continent qui était civilisé et le nord qui était barbare passe à une division conceptuelle entre ouest et est au XVIIIe siècle. Les centres de la culture et de la finance se déplacent de Venise, Gênes, Rome et Florence vers Amsterdam, Londres et Paris, qui sont les villes enrichies par l'esclavage colonial. Le regard se porte désormais aussi vers l'Est, étrange et étranger. La notion de civilisation devient, je cite, « le point de référence crucial et indispensable pour rendre possible la consolidation et l'articulation de l'idée d'une Europe de l'Est et de l'Ouest ». Tout au long des 18e, les voyageurs de l'ouest de l'Europe font des récits horrifiés de leurs rencontres avec les habitants de la Hongrie, de la Pologne ou de la Russie. En 1790, il y a un pamphlet publié en France qui avait pour titre « L'Orang-outan de l'Europe ou le Polonais tel qu'il est ». et qui reçut un prix d'ailleurs d'histoire naturelle en 1779 et qui décrit le Polonais comme la pire, la plus misérable, la plus vile, la plus déshonorable, la plus idiote, la plus immonde, la plus fausse et la plus lâche des créatures parmi tous les singes. En 1790, Goethe tire d'un voyage en Pologne la conclusion, donc c'est Goethe, « Je n'ai rien vu de remarquable, même si cela était en grande part remarquablement négatif. » Dans son journal de 1791, Johann Fichte fait une description apocalyptique de la Pologne et des Polonais. Des hommes proches de la sauvagerie, des femmes à la sexualité débridée, des villages hideux et sales, peuplés de juifs, partout une saleté repoussante, des gens incultes et alcooliques. On voit l'écho avec la description ensuite, évidemment, des peuples africains, océaniens et d'Amérique. Cette division interne à l'Europe entre civilisés et barbares s'accomplit donc au même moment de cette autre division du monde qui se consolide avec la destruction des peuples des Amériques et des Caraïbes et le développement de la traite. On sait que c'est au XVIIIe siècle que la traite négrière atteint son pic. Au XVIIe siècle, entre 40 et 50 000 Africains sont déportés par an. Au XVIIIe siècle, ça sera entre 70 et 90 000 par an. Donc on voit que le pic, c'est-à-dire le siècle des Lumières, est aussi ce siècle d'une division interne à l'Europe et d'un pic de la traite négrière et évidemment des déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Elle est renforcée, donc, cette division du monde à la fois interne à l'Europe qui va tracer un axe Allemagne-France-Angleterre et qu'on va appeler l'Europe, alors que c'est vraiment un tout petit endroit de l'Europe de l'Ouest qui est déjà, elle, toute petite, dans le monde, donc on se rétrécit, est renforcé par des traités, en fait. Et là, j'arrive à cette histoire du monde maritime, notamment les traités d'Utrecht en 1713 et 1715, qui vont donner naissance à une nouvelle idée de l'Europe politique, de ce que c'est que l'Europe politique. Deux hommes vont influencer l'idée d'une communauté de valeurs et d'intérêts à cette Europe, c'est l'abbé de Saint-Pierre et Charles d'Avenant. Dans un écrit de 1697, d'Avenant déclare que dans une nation commerçante, les lois doivent tendre à encourager le commerce et toutes les décisions doivent être prises en faveur de ses propres intérêts et de son propre avancement. Donc une souveraineté maritime. Il identifie deux pôles de richesse pour l'Europe, à l'est en Asie, les comptoirs où doit s'exercer un libre marché, et à l'ouest les plantations et l'esclavage. Ce sont donc les deux piliers de la richesse. Dans son projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, qui bien avant donc Kant, publié en 1712, l'abbé de Saint-Pierre propose de former une union européenne entre nations unies par une même religion, un même droit international, les mêmes principes moraux, une même littérature, et par la volonté de maintenir un équilibre où forts et faibles trouveraient leur compte et où le commerce serait libre. On voit déjà toute l'Europe d'aujourd'hui. La communauté européenne d'aujourd'hui est absolument issue de ces théories, de ces pensées. Les traités d'Utrecht vont beaucoup s'inspirer donc de l'abbé de Saint-Pierre, de Charles d'Avenant, et les signataires vont déclarer qu'il est nécessaire, vous savez, les traités d'Utrecht, c'est après la guerre de 30 ans qui avait ravagé l'Europe entre protestants et catholiques, donc finalement, il y a un traité. Bon. Il est nécessaire d'établir la paix pour, je cite, « maintenir une perpétuelle tranquillité dans le monde chrétien ». Certes, cet idéal d'une unité naturelle et d'une paix universelle ne va pas empêcher les guerres et les rivalités, mais elle va tenir lieu de ciment à l'idée européenne envers les autres peuples et les autres civilisations. Ce traité aussi donnant l'asiento à l'Angleterre, c'est-à-dire le monopole de la vente des esclaves dans les colonies espagnoles, va lui ouvrir la voie pour occuper sa position de puissance négrière et d'hégémonie maritime à partir du XVIIIe siècle que l'Angleterre ne va perdre qu'au XXe siècle. Donc la reconfiguration de la carte de l'Europe autour de cet axe dont j'ai parlé, Allemagne, France, Angleterre, est contemporaine de la carte coloniale et trace à la fois sur son sol et dans le monde des frontières entre barbarie et civilisation. Le projet esclavagiste et colonial a donc par nécessité entraîné une attention aux espaces libres, fleuves, océans, qui elles-mêmes entraînent le développement de la cartographie maritime, mais aussi de la science des mers, de la construction des ports, de la gestion des forêts, puisque le bois était nécessaire à la construction de bateaux, d'une maîtrise aussi de l'industrie du textile. Et là, le coton, là justement, tu parlais de l'industrie textile, qui était d'ailleurs en Suède faite par des personnes esclavagisées. La gestion des équipages, la création d'écoles de marine, le développement d'armements propres à la navigation, utiliser les mêmes canons sur terre ou sur la mer. Donc le projet hégémonique exige tout cela, mais aussi un découpage des mères et un droit qui assure la domination occidentale, masculine et militaire. Alors donc ça c'est... Je vais sauter au XXe siècle. À un moment où la cartographie des puissances change, l'Angleterre perd sa place et la flotte des Nations Unies, des États-Unis, s'impose. Les rivalités vont s'accentuer pendant la guerre froide, entraînant la construction de bases maritimes dans tous les océans, dont certaines sont presque inconnues, comme Diego Garcia dans l'océan Indien, qui est une base militaire extrêmement importante pour justement contrôler à la fois l'Afrique, le Proche-Orient et tout cela, et d'où partent d'ailleurs les bombardiers vers l'Irak et la Syrie. Le développement aussi de satellites et d'autres technologies de surveillance et le fait que la guerre continue d'arriver par les mers. Alors aujourd'hui, les porte-avions sont extrêmement importants dans les mers. On voit souvent des images des armées à terre, mais en fait, les porte-avions sont les plus importants, puisque pour la plupart des armées occidentales, c'est de protéger leurs soldats et donc de bombarder, d'utiliser de plus en plus les bombardements. Donc en 1982, la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer, qui est connue sous le nom de Constitution pour les océans, déclare, je cite, « solennellement, notamment que la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale et des ressources de cette zone, sont le patrimoine commun de l'humanité. » Et que l'exploration et l'exploitation de la zone se feront dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États. Cette convention a été initiée par les États-Unis. Par les États-Unis à un moment d'ascendance de leur pouvoir. Mais elle ne sera pas signée par les États-Unis au moment où elle apparaît, parce qu'ils sont inquiets à ce moment-là de se voir appliquer des contraintes sur l'exploitation de leurs zones territoriales, des zones d'exclusivité économique et des ressources, et sur la liberté de circuler librement sur les mers. Donc la logique coloniale qui est au cœur de la nécro-économie néolibérale actuelle, c'est-à-dire aucun coin des terres et des océans ne doit lui échapper, va encourager la privatisation des mers et de tout espace liquide. Donc ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'aucune des théories décoloniales des mers ne se soit développée face à cette longue histoire de maîtrise, d'hégémonie et de destruction. Il y a de l'histoire, il y a des récits historiques. Mais... Bien au contraire, même on peut voir, aujourd'hui, des puissances du sud global, particulièrement la Chine et l'Inde, participaient à une course à la maîtrise militarisée des mers. Il y a eu toute une annonce sur des sous-marins. Bref. Dans la doctrine militaire globale, l'océan est en train de devenir une zone totale. C'est ce qu'exprime Andrew Kiprinovich, qui est chef du Centre pour les stratégies for Strategic and Budgetary Assessment, qui est un think tank associé au Pentagone, et qui déclarait en 2015, je cite, « La technologie moderne a réduit le Pacifique à la taille de la Méditerranée. Tous les océans sont appelés à être réduits à la taille de la Méditerranée. » Il prévoit d'ailleurs que les zones nationales d'exclusivité vont s'étendre de plus en plus pour pratiquement se rejoindre au milieu, ne laissant qu'une « no man's land » ou plutôt « no man's sea » dans laquelle chacune des parties entrerait à sa... qui entrerait à ses risques et périls. Alors, il faut que je trouve ma... Ainsi, ajoute-t-il, après des siècles de liberté des mers, les océans deviendront des « killing fields ». Dans ce schéma, la recherche scientifique doit se mettre au service de l'industrie en identifiant les ressources exploitées. On sait déjà que les progrès technologiques ont permis aux flottes de pêche des pays riches d'exploiter les côtes africaines, par exemple, poussant les communautés de pêcheurs vers la misère, pêcheurs qui prennent alors la mer pour tenter de survivre et meurent dans la mer qui les nourrissait et qui devient leur tombe. La criminalisation aussi du millénaire droit de la mer, vous savez qu'il s'agit de porter secours à toute personne qui est en danger, est désormais une réalité. On le voit dans toute la Méditerranée, mais on le voit aussi autour des... dans les îles Comores et aussi dans le Pacifique. Comment alors faire ressurgir des histoires océaniques multiples et plurielles? Comment faire effectivement développer, réécrire cette histoire, ne pas la laisser entre les mains exclusives de disciplines comme la géopolitique, la géographie, l'histoire maritime européenne et l'économie? Cette réécriture questionnerait une temporalité qui inscrit la traite transatlantique comme le début des relations des mondes maritime et du monde africain avec l'Europe. Elle mettrait en lumière des processus de créolisation qui précèdent ce que l'on trouve ensuite dans les sociétés créoles issues de l'esclavage, par exemple les cultures Swahili qui se répandent dans l'archipel des Comores et jusqu'au nord de l'esclavage. Elle convoquerait aussi les déesses de la mer, Mami Wata, Yemanja Yemanja de la Grande Rivière, Yemanja de la Grande Mer, la Belle Dame des Eaux, la déesse du panthéon diasporique africain, qui donne naissance aux eaux du monde, qui fait ressurgir de nouvelles sources chaque fois qu'elle se tourne dans son sommeil. Elle fait jaillir sources et rivières partout où elle marche. Elle convoque les esprits de l'eau. Ce sont des choses qu'on retrouve dans plusieurs cultures et peuples. Et il y a aussi cette conception, très, dans la plupart en dehors de l'Occident, qu'il y a un continuum entre la terre et l'eau. Il n'y a pas cette frontière, il n'y a pas cette division de la terre et de l'eau qui s'arrêterait, la terre qui s'arrête au rivage. Il y a un continuum entre les sources, les fleuves, les océans et les terres. Donc il y a une idée justement plutôt planétaire, et juste pour toutes les questions d'environnement aujourd'hui et de planétaire, de conception planétaire, ces conceptions sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, chaque jour, chaque semaine, des Africains se noient dans les mers qui bordent le continent européen. La Méditerranée est un cimetière marin de l'Afrique, comme le sont les eaux des lagons de Mayotte, département français dans le canal du Mozambique. Département français entre 25 000 guillemets, mais enfin bon. Et aussi, évidemment, dans le Pacifique. Dans un décret pour nos morts, le poète et metteur en scène comorien, Sof El Badouadi, rappelle, et je cite, « Il y a des morts et des morts. Les nôtres s'oublieraient plus facilement, parce que nés sur un rivage oublié du monde. » Le monde dépossédant se veut sans pitié pour les gens du boutre. Avec cette histoire de migration sauvage en sa propre terre, peut-on être étranger ou clandestin sur la terre de ses aïeux ? Marcher au bord de l'eau, boire, laver dans la rivière, naviguer, pêcher, chaque fois les dimensions symboliques associées à l'eau agissent à notre insu. L'eau est le principal constituant du corps humain. Notre vie commence dans l'eau. Elle est inséparable du fonctionnement de notre cerveau, qui est composé d'eau à 82%. Et cette eau qui transmet les influx nerveux et les hormones. L'eau nous aide à respirer et à nous protéger des microbes. Elle est architecte de notre corps. Nous tenons debout parce que nous sommes faits d'eau. Car elle fabrique nutriments, globules et cellules, irrigue la peau, structure la matière vivante et sert de réserve aux cellules et aux vaisseaux sanguins. C'est donc toute une autre conception de se tenir debout qui n'est pas justement constituée, qui serait constituée d'une matière liquide plutôt que d'une matière solide. L'eau fertilise la terre, la végétation et toute forme vivante. Dans son ouvrage sur l'eau, Gaston Bachelard parle de l'imagination parlante. Il s'agirait alors de faire ressurgir l'imagination parlante des mondes océaniques et liquides non européens. De revoir évidemment comment la conception de l'eau dans l'Occident conduit à la destruction des écosystèmes, et aussi a fait du monde industrialisé du Nord le modèle à atteindre. Sur la question de l'eau, sur cette conception de l'eau, je voudrais aussi parler de deux anecdotes. L'une se passait à Madagascar en 1997, et qui était donc, c'était pour... Il y avait un colloque qui revenait sur la publication du livre d'Octave Manoni, Psychologie de la colonisation, qui avait été paru en 1947 et dont on sait qu'elle est un ouvrage qui a été très attaqué par Fanon, par Césaire, puis par Fanon, autour de cette conception de malgache qui était prêt à être colonisé. Et donc, il y avait un colloque à Madagascar avec des psychiatres et des psychanalystes malgaches et puis des psychiatres et des psychanalystes français. Et puis des personnes de l'île de la Réunion, puisque je suis de l'île de la Réunion. Donc on y est allé, et il y avait, les Malgaches nous ont emmenés visiter, parce qu'Antananarivo est entouré de collines. Antananarivo, c'est la capitale de Madagascar, est entouré de collines. Et on va sur ces collines, parce que ces collines sont les tombes des dirigeants, des rois et des reines malgaches. Et dans la conception des Imérinas, qui sont ces peuples des plateaux de Madagascar, les constructions dans lesquelles on vit sont en bois, parce que la vie est éphémère, et les constructions des tombes sont en pierre, parce que la mort est là pour toujours. Et donc, ils nous emmenaient voir ces tombes des rois et des reines malgaches, Et il faisait très chaud ce jour-là et nous n'avions pas emporté d'eau pour boire. Et nous arrivons, je veux dire, au cours de notre marche, Harry, il y a une source avec de l'eau très fraîche sous l'arbre, enfin, bon, tout un endroit très beau. Et les Français se précipitent sur cette source pour boire, assoiffés. Et les Malgaches se mettent à pousser un peu des cris, puis à parler très très rapidement entre eux en malgache, tout ça. Alors les Français s'arrêtent, disent « qu'est-ce qui se passe ? L'eau est peut-être polluée. » Et qu'est-ce qui se passe ? Alors les Malgaches continuent à parler, puis finalement ils disent « non, non, vous pouvez boire. » Alors moi je me dis « bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelque chose qui s'est passé. » Donc je vais voir les amis malgaches et je leur demande « qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils disent « c'est une source sacrée. C'est une source où on vient faire les rituels. » Donc, on ne rentre pas là-dedans, on ne boit pas comme ça. Et donc, on a discuté entre nous et on a décidé que ces personnes n'avaient pas d'âme, donc ils pouvaient boire à la source. Donc, parce que, voilà, ils étaient sans âme, donc ils pouvaient boire à la source. Et après, donc, la source allait retrouver naturellement son caractère sacré. Elle n'était pas polluée, elle n'était pas contaminée. Alors, et j'étais intéressée par cette suspension aussi d'un moment, quoi, cette intelligence pragmatique de suspendre un moment le caractère sacré, de voir comment faire les choses. Et d'une part, alors moi, évidemment, je dis, je ne voulais pas boire, évidemment, parce que je ne voulais pas être sans âme. Je voulais. Alors, ils m'ont dit non. Toi, tu peux boire. Toi, tu as une âme, donc tu peux boire. Enfin, bon, alors, bon, j'ai eu l'eau. Alors après, les Français m'ont demandé ce qui s'était passé. Je leur dis non, rien. Ils discutaient pour voir si vous pouvez, je veux dire, si l'eau justement était potable. Donc j'ai pas partagé l'histoire avec les Français parce que je me suis dit si je leur dis qu'ils sont sans âme alors qu'on est en train de discuter psychanalyse et inconscient, tout ça peut provoquer quand même un petit problème. Donc, c'est resté comme ça, un peu suspendu, mais c'était justement cette question de l'eau que je trouvais intéressante. L'autre histoire se passe à l'île Maurice, où il y a un grand lac, où les hindous vont justement faire un rituel chaque année, extrêmement important pratiquement. Il y a énormément de descendants d'Indiens à l'île Maurice, puisque l'esclavage est aboli bien plus tôt par les Anglais que par les Français. Donc en 1815, l'esclavage s'arrête à l'île Maurice, la traite. Et donc les Anglais vont faire venir massivement ce qu'on appelle les travailleurs engagés, essentiellement de l'Inde. Donc ce n'est pas tout à fait comme à La Réunion, où les ethnies, les communautés sont un peu en équilibre. À l'île Maurice, c'est massivement vraiment une grande importance d'Indiens. Donc c'est très très important. Donc ce lac est pensé comme étant donc un endroit, là vont se faire les rituels chaque année, d'immenses rituels. Et elle est pensée, ce lac est pensé, pense du Gange, à Lille, que le fleuve passerait sous la mer, donc dans cette mer salée, hein, qui a été salée, comme dit Kalekaputuma, par les larmes des esclaves et des engagés, on pourrait dire, et ressurgirait donc comme eau douce, dans ce lac, à l'île Maurice. Bon, je ne sais pas si vous voyez l'Inde et l'île Maurice, hein, c'est quand même pas tout à fait à côté. Hein. Et donc, cette manière de voir les eaux, comment les eaux ressurgissent, et comment les eaux entrent dans l'imagination et font pont, et font effectivement sens, au-delà justement de la manière dont l'eau est appréhendée par la pensée occidentale, comme quelque chose d'utilitaire, comme quelque chose sur lequel on va naviguer et maîtriser, parce qu'il faut transporter les biens, les marchandises et les êtres humains, mais comme quelque chose qui participe justement de la vie, et que sans ces eaux-là, on ne pourrait pas vivre. Et pas simplement parce que nous avons besoin d'eau, puisque nous savons que nous mourrons bien plus rapidement si nous n'avons pas d'eau que si nous n'avons pas de nourriture. Ce n'est pas seulement ça, c'est la conception même d'être faire partie du vivant. Donc que tout est vivant, et que cette eau fait partie du monde où nous vivons. Donc d'une autre conception qui évidemment ouvre dans le moment actuel de capitalocène racial ou d'anthropocène capitalocène, enfin comment on veut l'appeler, enfin de ce moment racialisé de la crise, de ce qu'on appelle la crise climatique, de repenser justement cette eau qui est privatisée aujourd'hui et qui est massivement polluée. Donc merci.